Actu SF, les podcasts.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Magic Mirror pour une rencontre autour d'un thème. Alors si je me souviens bien de la formulation, c'est nature sauvage, nature qui est le thème de ce festival cette année, fantaisie barbare. Tout un programme, vous allez donc comprendre que nous allons faire dans la légèreté, dans la joie et la bonne humeur et l'amour de son prochain avec nos auteurs, où on parlera effectivement des interactions de la nature. On verra qu'elles sont assez nombreuses et assez importantes et parfois assez surprenantes. Et puis on s'intéressera quand même aussi aux êtres humains que l'on croise dans ces livres et qui parfois eh bien, se laissent eux aussi emporter par leur nature. C'est bien amené tout ça. Stéphane Plateau, je vais commencer par vous parce que vous êtes prix Imaginal pour Manèche, premier volet du Sentier des Astres, qui est un cycle où la nature tient une place pour le coup fondamentale. Et en particulier ce premier tome, dont nous reparlerons d'ailleurs plus en détail samedi, je crois, puisqu'on parlera de la forêt en plus. Mais on va quand même s'intéresser à ce Manèche, puisque la nature est plus qu'un cadre dans cette histoire.
Alors j'arrive tout juste de Belgique.
Hein. C'est le décalage horaire.
C'est une conférence avec Christophe de Gerfagnon. Je suis assis dans une mini-chaise. Ça va être chouette. Bonjour public. Bonjour les amis.
Je rappelle que Stéphane Plateau est susceptible de dire des horreurs à n'importe quel moment. Éloignez les enfants.
Donc ben oui, ben la forêt c'est vraiment, la nature est un cadre important puisque la nature c'est aussi tout ce qui héberge le mythe en fait. Le mythe est caché dedans. On est dans un monde, le monde des sentiers des astres, c'est un monde qui est encore très empreint de chamanisme, qui est resté dans une vision animiste, où d'ailleurs tout ce qui est magie fait appel aux esprits, où des créatures se cachent encore dans l'ombre des forêts. Et voilà, en même temps, c'est un monde d'une technologie plus avancée, qui est déjà au niveau de la fin du XVe siècle, donc c'est pas un décalqué de l'époque celtique, par exemple, au niveau technologique, c'est plus avancé. C'est le début de l'imprimerie, de l'artillerie à poudre, c'est l'apogée des armures de plate, etc. Et donc cet animisme qui est resté quelque part une fois dominante est évolué, élaboré jusqu'à un niveau de complexité qui rappelle par exemple les Védas hindous, parce que c'est un univers qui mélange des influences celtiques et hindoues entre autres, un peu comme si les Celtes avaient conquis l'Inde antique, ou le contraire, et que tout ça avait évolué pendant un millier d'années en une seule civilisation, jusqu'à ce niveau technologique, un monde aussi bariolé que le Brésil, où souffle une forme de spiritisme, de spiritualité, de sérénité un peu à l'hindou, de fatalisme aussi, avec des mythes à la sceptique et toujours ce fond chamanique.
Et dans Manèche, l'un des personnages principaux, c'est le fleuve.
On peut le dire comme ça, c'est vrai que tout est construit sur la remontée d'un fleuve. Alors il se remonte en bateau, il peut se remonter aussi à pied, on peut s'en écarter, mais on y revient toujours. Le but est au bout, aux sources du fleuve. Donc cette remontée fluviale qui est aussi une remontée à la rencontre de soi-même, de ses propres pulsions fondamentales, des moteurs de l'âme humaine qui gouvernent nos actions parfois à notre insu. C'est vrai que ce fleuve est vraiment essentiel et chaque fois qu'on s'en écarte, on finit toujours quelque part par y revenir et par naviguer dessus.
Peter Brett, bienvenue. Deuxième visite à Épinal, me semble-t-il. La première fois, c'était oui. En 2011. Depuis, votre cycle, le cycle des démons a grandi. Il s'est allongé, hein, puisque la première fois où nous avons reçu, il n'y avait que l'homme rune. Et puis depuis, ça a évolué. On en est à 5 tomes, plus quelques nouvelles qui se déroulent dans cet univers. Univers où la nature... Alors, est-ce que c'est vraiment la nature? Je vais vous poser aussi la question. C'est un univers particulier, puisque dans la journée, on va dire que ça va. Et quand le soleil se couche... ça devient nettement plus compliqué. Que se passe-t-il la nuit dans votre univers?
So first of all, thank you for welcoming me here. I'm excited to be here again. I really have fond memories of Imaginal from 2011, and so I'm very pleased for the opportunity to come back. in my books, I started with a world very much like our own. I prefer not to say if it actually is our own. But then people stopped believing in magic, and when they stopped believing in magic, the demons came back. So there are these ancient stories of wars with demons, but no one had seen a demon in so many thousands of years that they'd forgotten about them. So when they came back, people weren't ready. The demons rise up out of the ground at night, and the only way to protect yourself or to protect your home or your farm is to draw these magical symbols called wards around your property, around your house, or whatever, to protect yourself at night, because otherwise the demons will just destroy everything. And the demons are shaped by the territory that they rise within. So the demons in the mountains are rock demons, and they're very large and very powerful and very intimidating. The demons in the forest look like trees, and so if they stand still, you might not even see them until they're right in front of you. The demons in the fields are very fast. The demons in the water come in a lot of different shapes. We don't really see them very much, which makes it even more terrifying when a tentacle comes out of the water. And so I thought quite a bit about how these creatures play into the nature of the world, but also how the story begins 300 years after the demons have come back. And so when I think about a world where these creatures come out and start hunting every living thing at night, most of the larger creatures have been killed, except the ones that are kept safe on a farm with magical symbols around them. And how did that affect ecology, you know, the environment? How does that affect the other creatures that now smaller creatures don't have predators anymore, and larger creatures some creatures don't have food? All of those things are things that I had to think about while I was building the story.
Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier. Je suis vraiment très contente d'être là. J'ai de très bons souvenirs de mon passage aux Imaginales en 2011. Donc vraiment, je suis ravie d'être de retour. Donc effectivement, dans mes romans, c'est un monde qui ressemble au nôtre. Je préfère ne pas dire si c'est effectivement le nôtre. Les gens ont cessé de croire à la magie. Et donc ils connaissent les histoires anciennes de démons qui ont arpenté la terre, mais ils n'y croient plus. Et parce qu'ils n'ont pas vu de démons depuis des années, ils oublient, ils pensent que ce n'était pas vrai, et du coup quand les démons reviennent, ils ne sont absolument pas prêts à les affronter. Donc les démons effectivement s'élèvent de terre pendant la nuit, et pour protéger votre maison ou vos propriétés, il faut dessiner des symboles qu'on appelle des runes pour tout protéger, parce que sinon les démons débarquent et détruisent tout. Donc les démons ont des formes différentes selon les endroits d'où ils viennent. Les démons de la montagne sont faits de roches et ils sont très grands, très imposants. Les démons de la forêt vont ressembler plus à des arbres, et s'ils ne bougent pas, on ne va pas forcément les remarquer tout de suite. Ceux qui viennent des champs vont être très rapides. Ceux qui viennent de l'eau, qui vivent dans l'eau, ont différentes formes, et en fait on les voit quasiment jamais, et du coup c'est d'autant plus impressionnant quand tout à coup une tentacule sort de l'eau. Mais effectivement, quand j'ai créé cette série, j'ai dû réfléchir à leur lien avec la nature. C'est-à-dire que là, le premier roman commence quand ça fait 300 ans déjà que les démons ont réapparu. Et du coup, c'est un monde où les gros animaux ont disparu parce qu'ils ont été tués du coup par les démons. Et du coup, il fallait que j'étudie l'influence que ça pouvait avoir sur l'environnement. C'est-à-dire que y a certains animaux qui se retrouvent sans prédateurs, d'autres qui n'ont plus rien à manger. Donc j'ai vraiment dû réfléchir à ça quand j'ai écrit la série.
La nature, on comprend vraiment que la nature joue une place très importante dans ce cycle. Dans la relation finalement aussi qu'ont les personnages humains avec cette nature qui devient finalement extrêmement hostile. Et au départ, lorsqu'on découvre en particulier le village où grandit Arlène, on est dans une société extrêmement rudimentaire, archaïque.
Um, so it's true. The idea is that this was a society that was at one point technologically advanced, and because the demons came back and started destroying things, eventually all of the machines broke down, all of the libraries were burned. That was one of the first things that the demons did, was they burned all the libraries, so a lot of the human knowledge has been lost, and so it's left people in a sort of 1850s level of technology, and so that, of course, has deeply affected their lives. But for me, the real interesting part of the story is, you know, during the day you're working and working and working to try and have enough food and make sure that your lands are protected, but at night you're basically imprisoned. You're imprisoned by these magical symbols that keep the monsters out, but the humans are locked in together and they can't leave. And so the interesting story for me is, how do the humans treat each other when they're trapped inside this magical circle? They can't leave, and the demons might break through at any moment. So every night could be your last, and you're stuck together with the same group of people night after night after night. How does that make people treat each other? And that's where the story for me really takes life.
Effectivement, l'idée, c'est vraiment d'avoir une société où on a connu la technologie par le passé, mais quand les démons ont débarqué, comme ils ont cassé les machines, ils ont mis le feu aux bibliothèques, et du coup, les humains ont perdu une grande partie de leurs connaissances. Du coup, leur technologie, c'est à peu près comme s'ils vivaient dans les années 1850. Et effectivement, ça a une grande influence forcément sur les gens qui habitent dans ce monde. Mais pour moi, ce qui était vraiment intéressant en créant ce monde, c'était que ces personnages, le jour, ils travaillent, ils essayent d'avoir assez de nourriture pour survivre, ils essayent de protéger leur terre correctement. Mais finalement, la nuit, ils sont en prison, ils sont enfermés, entourés par leurs runes. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir comment les gens se traitaient entre eux quand ils sont enfermés, qu'ils ne peuvent pas sortir, qu'ils sont entourés par les démons et que chaque nuit peut être la dernière. Pour moi, c'était vraiment ça qui donnait une vie au récit.
On va s'intéresser à la trilogie d'Hélène Pémérel, qui s'appelle L'automne des magiciens, parce qu'il y a quelques points communs, on va dire, avec ce que vient de nous raconter Peter, même si on y reviendra un peu plus loin, parce que dans le premier tome, la nature est très présente, à travers le personnage d'Octaviane, qui est donc une princesse qui s'enfuit parce qu'elle refuse le destin qui lui est imposé, et elle va devenir finalement un personnage errant. Elle s'appelle la fugitive, c'est le titre d'ailleurs de ce premier tome, et elle vit justement en grande partie dans ce premier tome dans la nature.
Oui, en effet, le premier tome est le récit d'un voyage. Donc, j'ai construit un monde avec 9 cités qui ont des caractéristiques différentes. On peut très bien avoir une cité prise dans les neiges, une mythologie un peu nordique, donc au nord des 9 cités, tandis que les cités du sud sont désertiques. Et on a aussi une forêt vieille. Enfin, c'est un peu l'avantage quand on est un auteur, on peut créer un monde qui n'a pas forcément une cohérence géographique extrême, mais qui permet donc de donner des enjeux différents. Les prédateurs qu'elle doit affronter dans la forêt ne sont pas du tout les mêmes. Et puis il y a même donc des créatures. Une créature hybride en particulier.
Alors ça, on va y revenir, on va en parler tout à l'heure un peu plus en détail. Octaviane, quand elle part, elle sait qu'elle a du pouvoir, elle ne l'a peut-être pas bien compris, et surtout elle ne le maîtrise absolument pas. Donc quand elle part, on va dire qu'elle est un peu comme vous et moi, d'une certaine manière. Et donc elle va devoir apprendre à vivre aussi de cette manière-là, et apprendre à découvrir ses dons, apprendre à découvrir ses talents. Et surtout, elle a une particularité, c'est qu'elle est extrêmement altruiste, alors qu'elle est issue d'une famille qui est une famille régnante, dominante, où finalement le peuple compte pas vraiment beaucoup.
Oui, donc c'était une princesse avec une éducation très protégée, derrière les grilles du palais royal. Et puis,
En plus, elle est la huitième fille, Octaviane.
Voilà.
Donc, ça n'aide pas.
Elle n'était pas du tout préparée à cette existence d'aventure. Elle n'était jamais sortie vraiment du palais. Et donc, c'est un roman d'apprentissage. C'était intéressant pour moi de montrer comment, face à chaque obstacle, elle arrive finalement à trouver des ressources en elle-même. Elle arrive à s'adapter, à évoluer. Et jusqu'à l'obstacle suivant, bien sûr, qui est toujours une nouvelle catastrophe, toujours de plus en plus inattendue.
Et on verra que la magie, là aussi, et c'est là où je venais en venir avec le parallèle avec le cycle de Peter Brett, hein, joue un rôle important. Et on verra que, effectivement, ça ressemble assez à ce que nous disait Peter tout à l'heure, le lien avec la nature et les éléments. Mais ça, on va en reparler un peu plus loin. Et puis, bah, pour finir ce premier tour, on va parler avec Aurélie Wellenstein. On va laisser le dieu oiseau que nous avons évoqué depuis ce matin avec les lycéens. Oui, on va parler de Mère morte, qui est le dernier roman, parce que bah, là, il est vraiment en phase avec ce que l'on évoque. La mère a disparu. La mère n'existe plus.
On a tué la mer, on a tué les océans, nous les humains. La mer revient sous forme fantôme. Ce sont des marées fantômes qui peuvent déferler absolument n'importe où. Ça peut recouvrir Épinal, ça peut recouvrir n'importe quelle cité du monde, et cet océan fantôme revient hanter les hommes, en fait, avec ce désir de vengeance aussi. Vous m'avez fait ça, vous m'avez pollué, vous avez tué mes animaux, je me venge de vous. Donc ces flots fantômes charrient en leur sein des poissons, des dauphins, des baleines fantômes qui vont venir arracher l'âme des humains. C'est-à-dire que non seulement vous avez la catastrophe écologique, et vous avez la catastrophe surnaturelle, en fait, de ces mers mortes qui reviennent envahir le monde de temps en temps. En plus, c'est irrégulier. C'est pas une régularité de marée. C'est des marées qui peuvent venir n'importe quand. Parfois s'arrêter une semaine, parfois revenir plusieurs fois par jour. Les durées sont variables. Le seul rempart qu'ont les hommes contre ce phénomène sont les exorcistes, en fait, qui peuvent lutter contre les spectres. Donc on va suivre différents personnages qui vont avoir des points de vue différents, en fait, sur le phénomène. Et mon objectif, c'était de montrer une trajectoire très écolo, très engagée sur le monde de la mer et sur ce qu'on lui fait subir. C'est-à-dire qu'en fait, cette histoire fantastique me sert de filtre pour quelque chose de très actuel, de très réel, qui nous concerne tous. Et ce que je mets en scène dans le roman, sous couvert de fantastique, est quelque chose qui est en train d'arriver maintenant.
C'est une tendance qu'on appelle la cli-fi, climate fiction, d'une certaine manière, mais qui est plutôt jusque-là orientée vraiment vers de la science-fiction, de l'anticipation, et que finalement vous appliquez, vous, à la fantasy, ce qui est assez original.
En fait, cette catastrophe surnaturelle, c'est vraiment une sorte de post-apo, mais onirique. Parce que c'est évident que s'il n'y avait plus de mer, là, on y passe tous, mais tout de suite, quoi. Dans les mois qui viennent, tout périclite. Dans mon univers, c'est plus lent, évidemment, hein, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Mais voilà, il y a quand même cette dimension assez rêve, assez onirique dans cette catastrophe-là, et bon, qui me plaisait aussi en termes d'atmosphère. Et voilà, donc c'est pas de la SF pure et dure, c'est vraiment plus, voilà, post-apo onirique.
L'atmosphère, au début, on a l'impression d'être un peu dans le désert des Tartares.
Ouais.
Sauf que là, l'ennemi arrive.
Oui,
c'est la différence, en fait. Ouais. Et qu'on sait pas quand il arrive.
Ouais. Ah, c'est marrant que tu dis ça, parce que c'est vraiment une influence, quoi. J'ai relu le désert des Tartares en écrivant Mère morte, et un des héros, l'exorciste, est sur les remparts de son bastion au départ, et il voit la marée fantôme arriver, déferler sur son bastion, donc l'ennemi des arts du tartare qui arrive.
Ça va, j'ai pas trop mal lu, donc. ça me rassure.
Comme d'habitude.
Oh. Bon, c'est gentil. Oh, oui. Stéphane Plateau, le cycle du Sentier des Astres nous emmène donc dans un voyage, là aussi dans un univers où la nature est très présente, très belle, très dangereuse aussi, parfois.
J'ai des gens au premier rang qui arrêtent pas de rigoler chaque fois qu'ils me voient racrapoter dans ma chaise.
Bah oui, redresse-toi.
Bon.
C'était important justement aussi pour toi qu'il y ait cette nature qui soit présente dans ce cycle, qu'elle tienne une place importante, et puis bah, qu'elle nous emmène, que les paysages finalement jouent vraiment un rôle, pas seulement de décor, mais...
Est-ce que c'était important, est-ce que c'était conscient? Moi, je pense que ça me vient directement, parce que la fantasy, c'est un voyage pour moi. Avant tout, c'est l'évasion par le voyage. D'ailleurs, c'est vraiment en lisant beaucoup de fantasy que j'ai eu envie aussi de voyager vraiment. ou en mettant en scène des montagnes ou en lisant des histoires de montagnes que j'ai eu envie de vraiment faire de l'alpinisme ou ce genre de choses. Donc c'est dans le voyage, la nature évidemment tient un rôle essentiel. C'est aussi s'évader dans un monde où le rapport avec la nature est archaïque. Je pense que c'est peut-être un des gros moteurs de beaucoup d'auteurs et de lecteurs de fantasy. C'est, vous savez, la science-fiction explore le futur. Son rôle est pour moi très clair, très évident, et je crois pour beaucoup de monde, c'est une des seules disciplines qui nous permet vraiment d'explorer un futur qui n'est pas accessible à notre connaissance empirique. C'est d'ailleurs bien le problème du réchauffement climatique, c'est qu'il n'est pas accessible à notre expérience, et donc on a vite tendance à le rejeter. Donc c'est une discipline qui est assez vitale pour l'avenir de l'humanité. En fait, la science-fiction ou la futurologie ou d'autres disciplines similaires, mais être capable d'anticiper un avenir qui est tout à fait hors de notre expérience. Donc le rôle de l'ASF, pour moi, il était clair. Puis je me suis posé la question du rôle de la fantasy, finalement, sachant que la littérature générale parle du présent ou d'un passé historique très attesté, très documenté. La fantasy, c'est un peu le besoin de renouer avec nos racines, en fait, je pense. Quand on grandit, quand on évolue, puisque l'homme va se transformer très fort, ou s'est déjà transformé très fort, notre durée de vie, notre mortalité infantile, notre mortalité en couche qui a fortement diminué, notre rapport à nos besoins fondamentaux qui sont résolus en sortant la carte bleue, etc., très facilement, ça nous a fait changer de nature profondément, et on va encore changer très fort. Et quand on change, parfois on a besoin de se connecter à son enfance et à ses racines. Et la fantasy, pour moi, en tout cas, c'est un besoin fondamental de renouer avec l'époque où on avait peur des fauves, où on ne maîtrisait pas la nature, où on était non pas en harmonie ou en vénération de la nature. Ça, je pense que c'est une façon d'idéaliser le passé, de fantasmer le passé. Mais où, en tout cas, où on avait un rapport où on faisait partie pleinement de cette nature, où on n'avait pas institué une nature différente entre nous et justement le reste de la nature. C'est avoir peur de la nuit, c'est avoir peur de ce que cache la forêt, c'est avoir peur d'être dévoré par un prédateur. C'est aussi une façon de penser le monde, la pensée magique, d'expliquer le monde par la présence d'esprit, par la présence des ancêtres, par l'influence des étoiles. C'est renouer avec cette façon de penser là un moment pour se ressourcer, se rappeler d'où on vient et mieux voir où on va.
On le voit bien, c'est qu'au travers de ce voyage, hormis les récits de la courtisane, par exemple, on ne traverse quasiment jamais de ville, à proprement parler. Même un des rares villages, ou en tout cas une des rares civilisations qu'on rencontre, est totalement intégré à la nature, à la forêt en particulier.
Oui, c'est-à-dire que l'intrigue principale se passe dans la forêt boréale, donc c'est assez difficile d'y voir des villes, hormis celle de ce peuple teul, qui est un petit plaisir anthropologique que je m'offre dans cette forêt de Vientrir, qui est un peuple qui a des particularités. Notamment, on découvre, je ne vais pas trop divulgâcher, mais que leurs femmes ont des capacités de sécréter de la soie, par exemple, avec des glandes dans leur bouche. Donc ça leur permet d'avoir du fil, d'avoir du tissu. Et ils ont d'autres caractéristiques mystérieuses qui vont se découvrir petit à petit, mais qui reposent sur le fait qu'ils ont intégré des vertus animales, épousés de façon spirituelle dans l'autre monde, etc., qui va vraiment les rendre très très particuliers. Alors ils sont humains et ils ne le sont pas en même temps. Ils ont des caractéristiques animales qui sont totalement extraordinaires et qui ne sont pas si qui ne sautent pas aux yeux en plein été, en tout cas si facilement, et qui sont vraiment à découvrir. En dehors de ça, c'est vrai que j'ai un outil pour aller varier les décors, qui est les récits de vie des personnages, puisque dans chacun des tomes, il y a un des personnages à bord des bateaux qui se raconte, qui va expliquer d'où il vient, ce qui l'a amené là, et raconter son parcours de vie. En général, ces personnages ont souvent des choses à cacher, vont pas si facilement livrer leurs secrets, et contiennent des pièces du puzzle de l'intrigue principale dans leur récit. Et là, ça me permet de mettre en scène des villes. Alors, c'est vrai que le début des premiers récits de vie n'a pas été très urbain. Seigneur campagnard, des bords de fleuve, une jeune noble de la forêt de Fintami, c'est-à-dire d'un grand nord qui ressemble un peu à l'Islande ou à la Finlande à la fois, près de la forêt aussi, donc très dans la nature. Mais tome 3, tome 4 vont nous emmener quand même très fortement en milieu urbain.
Peter Brett, dans votre univers, il y a des personnages très importants dans la société. Il y a les messagers, il y a les jongleurs, Et puis, il y a une troisième catégorie qui va nous intéresser un peu plus par rapport à notre thème, ce sont les cueilleuses d'herbes.
Oh putain, the
désolé.
Je l'ai dit en anglais, mais...
Ça faisait longtemps que je t'avais pas martyrisé, Hélène. Qui sont les cueilleuses d'herbes et quel est leur rôle dans cette société?
So, because of the fact that demons destroyed most of the infrastructure in the world, people have been forced to live in isolated communities. And so you can't protect large amounts of land with magic symbols without having something break somewhere and having demons get through. So people got smaller and smaller, and so that there are these big walled cities and these small isolated towns, and there are quite large distances in between them. And so the purpose of the messenger is to travel from one town to another. This is an extremely important job because it's the only form of communication that these places have. The messenger is trained to be able to create the ward symbols that give them protection, but they also have special tools like portable circles that they can lay out in their campsite, around their campsite to protect them. They have training with weapons, they wear armor, and they'll travel back and forth bringing packages, bringing messages, bringing supplies. And the messengers will usually travel with a jongleur. A jongleur is someone who's been trained to keep the oral history of their world. Since the demons burned all of the libraries, so much knowledge has been lost, and people are living at such a subsistence level that most people are not literate. So the only way to sort of maintain their cohesion as a culture and the stories that hold them together are to have these traveling storytellers called jongleurs who will go with the messenger from town to town and entertain people, but also sort of reinforce the stories that they think are important to keep their culture alive. And then lastly is the herb gatherers. The herb gatherers are essentially your doctors of the world. They're people who've managed to save some of the knowledge of the old world and apply it to medicine at the time. So they'll have, a lot of herb gatherers will have, say, an old book of chemistry or an old book of surgery or things like that, but they don't necessarily have the tools to manufacture like the drugs or to perform complex surgeries or things like that. So they have to, they can see how it's done and they can take their understanding from that template, but then they have to figure out how to make do with the tools that they have. And so each herb gatherer has like their own personal garden of like medicinal plants, and they have their, some of them are better at brewing things, and some of them are better at performing surgeries, and some of them are just glorified midwives. But then as the story goes on, I show how each one of these groups of people learns their own way of resisting demons. The jongleur learns that his music can influence the way demons behave. The herb gatherer learns that some of the old chemistry that she has can create weapons that can harm demons or poison them or affect them in other ways. The messenger searches the world looking for the magic symbols that will allow humans to start fighting back. And so we follow one, we follow three children, each of whom grows up to be one of these three things. And then we start to see how those three characters start turning the world around and bringing humanity back from the brink of extinction.
Alors effectivement, comme les démons ont détruit beaucoup de choses, les communautés sont maintenant très isolées. C'est-à-dire que, comme ils ont beaucoup détruit, il y a des grandes villes. Après, il y a des petites villes qui sont très éloignées les unes des autres. Et du coup, effectivement, les messagers servent de lien entre les différentes villes. Ils passent d'une ville à l'autre. C'est le seul moyen de communication qui existe. Alors, ils ont un enseignement pour apprendre à faire dessiner les runes.
Juste, je précise juste un truc pour ceux qui n'auraient pas lu le cycle, c'est que le travail des messagers, il est très compliqué parce qu'évidemment, il y a de la distance entre les villes, les hameaux, etc. Et que la nuit, lorsqu'on se retrouve en pleine nature, il faut arriver à se défendre. Donc, quand les trajets durent plus d'une journée, c'est très, très compliqué de se déplacer, d'où le travail très important des messagers et le fait qu'ils sachent aussi se défendre.
Donc oui, effectivement, les villes sont très éloignées les unes des autres. Mais du coup, les messagers ont des outils bien à eux. C'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, des cercles de runes portables. Comme ça, ils peuvent établir ça autour de leur campement la nuit pour éviter d'être attaqués par les démons. Ils ont des armes et des armures. Et donc, ils apportent des messages d'un village à l'autre. Ils apportent aussi parfois de la nourriture. Et souvent, ils voyagent donc avec un jongleur, le deuxième type de personnage. Donc, les jongleurs, eux, colportent les histoires. C'est un peu la mémoire des êtres humains, vu qu'il n'y a plus de bibliothèque, plus de livres. D'ailleurs, la plupart des gens ne savent plus lire à cette époque. Et ils permettent de garder une certaine cohésion entre les humains, quelque part. Ils racontent des histoires et ils changent aussi les idées des gens qui sont un peu forcément attristés par leur sort avec les problèmes de démons. Mais ça permet également de renforcer la culture. Et ensuite, il y a les cueilleuses d'herbe qui sont en gros les docteurs de l'époque. Elles ont réussi à conserver un minimum de connaissances dans le domaine qu'elles appliquent à la médecine. Elles ont des livres, il en reste des livres de chimie ou de chirurgie. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas forcément les outils pour faire ce qu'il y a dans les livres. Mais du coup, elles ont les connaissances et elles font avec ce qu'elles ont pour soigner les gens. Chacune a son petit jardin avec ses plantes. Certaines sont plus douées pour une sorte de chirurgie, d'autres pour concocter des potions, d'autres sont plus spécialisées pour les accouchements. Et donc, dans les romans, on va voir trois de ces personnages enfants qui vont évoluer. Et chacun va apprendre à résister aux démons à sa façon. Le jongleur va apprendre que sa musique peut influencer les démons. La cueilleuse d'herbes va apprendre que, effectivement, les herbes peuvent servir de poison ou d'armes contre les démons. Le messager, lui, va parcourir le monde pour essayer de retrouver des runes anciennes qui permettent de lutter contre les démons et non pas seulement de se défendre. Et du coup, on va suivre comme ça trois personnages enfants qui vont grandir et qui vont commencer à changer le monde.
Bruna, qui est, quand on découvre le cycle, la cueilleuse d'herbe du hameau où se passe une partie du début du cycle, est un personnage que moi j'adore, qui est une sorcière, hein, disons les choses clairement, en tout cas au sens très presque négatif du terme. Les gens du hameau la craignent, ils ont peur d'elle, elle vit à l'écart du village. C'est un personnage assez fascinant.
Yeah, Bruna is one of my favorite characters from the story and is beloved by a lot of readers as well. I think what I liked about her is she's sort of a symbol of the knowledge of the old world. She's, when we meet her in the beginning of the story, she's more than 100 years old. She told people that she stopped counting at 100. So when I think of this character, I think of a person who she's outlived her children and her children's children to the point where she doesn't have any family left. And she doesn't really understand why she's lived so long when, you know, like everyone that she ever loved has died of old age already. And that has made her more and more isolated as a person and, you know, as basically the only educated person in her town, her knowledge seems like magic. And so I think that, you know, she gets this sort of reputation as being a witch because she's able to do things that are miraculous to other people. But it's really just she's got a library of old science books. But the other thing that I like about her is something that I've witnessed myself, you know, having had the fortune of having very many strong women in my own family, is that the older a woman gets, the less she cares about holding back what she wants to say. Bruna is not afraid to say what's on her mind. She's not afraid to call a fool a fool. She's not afraid to clonk somebody on the head when they're acting stupid. She's not afraid to, speak her mind in a way that a lot of people don't feel comfortable with. But for me as a writer, that's a delight, you know, to have a character who actually is willing to say what they're thinking when most characters hold back what they're really thinking. Just breathes so much life into a story that it's a delight to read and to write.
Alors effectivement, Bruna, c'est également un de mes personnages préférés et beaucoup de lecteurs l'aiment bien. Effectivement, moi, ce que j'aime, c'est qu'elle représente l'ancien monde. Quand on la rencontre, elle a plus de 100 ans et on ne sait pas exactement quel âge elle a. Elle dit elle-même qu'elle a arrêté de compter à 100. Ses enfants sont morts, ses petits-enfants sont morts, elle a quasiment plus de famille et elle se demande un peu pourquoi elle vit si longtemps, mais du coup elle est de plus en plus isolée. Et comme c'est à peu près la seule personne qui soit réellement éduquée dans le village, ce qu'elle est capable de faire pour les autres, ça relève de la magie, et c'est pour ça qu'elle a une certaine réputation. Parce que pour les autres, ça paraît tellement miraculeux ce qu'elle arrive à faire, mais en fait, c'est juste qu'elle a des livres chez elle, hein. c'est pas de la magie. Et l'autre chose que j'apprécie dans ce personnage, c'est que, ayant moi-même eu la chance de connaître beaucoup de femmes fortes dans ma vie, j'ai remarqué que plus on vieillit, plus on a tendance à dire ce qu'on pense, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'a pas peur de dire à quelqu'un qu'il est idiot, elle n'a pas peur de lui taper sur la tête s'il fait quelque chose d'idiot. Elle dit ce qu'elle pense, et pour moi c'est vraiment hyper agréable parce qu'il y a tellement de personnages qui pensent beaucoup de choses mais qui ne disent rien. Elle se lâche et quelque part elle amène de la vie au roman, et c'est vraiment, je trouve, un plaisir de la lire et de l'écrire.
Hélène Pémeral, c'est presque une Bruna qui manque à Octaviane d'une certaine manière, même si elle a un maître, même si elle a quelqu'un qui va l'aider à prendre conscience de ses pouvoirs et de ses capacités. Mais c'est aussi une jeune fille perdue qu'on suit dans ce premier tome, où elle va aller à travers les forêts, à travers les grottes, où en plus il va se passer des choses dans la fin du premier tome où la nature, plus ou moins aidée, se déchaîne également. C'est une magicienne, et là aussi on va découvrir petit à petit que cette magie est en lien avec la nature.
Oui, c'est-à-dire que il y a un lien entre la terre sur laquelle elle est née et sur laquelle elle est censée régner, et la magie. La magie ne vient pas de nulle part, elle naît du sous-sol, du cœur de la terre, et chaque cité donc la magie prend une forme différente suivant chaque cité. Parfois elle sert à gouverner, parfois elle sert plutôt à soigner, et puis même on peut gouverner ou on peut se servir de ce pouvoir pour faire des esclaves ou pour faire des lois, et donc il y a un moment où elle doit réfléchir sur ce qu'elle veut faire de son pouvoir, ce qu'elle veut faire de sa magie, parce qu'avoir un pouvoir, c'est bien, hein, il faut déjà apprendre à s'en servir, mais surtout il faut se poser la question de dans quel but.
Alors dans le premier tome, elle l'a trouvé, sa vocation, d'une certaine manière. Elle est guérisseuse, elle fait le bien autour d'elle, et finalement elle est plutôt douée à la fois dans sa relation aux autres, dans l'empathie qu'elle peut avoir avec les autres, et puis dans les actes qu'elle prodigue. Et puis elle va être attrapée par ce qu'elle est,
oui,
ou en tout cas par son origine sociale,
oui,
et elle va se retrouver amenée à devoir gouverner, et là forcément ça va beaucoup la changer.
Oui, alors c'est une jeune femme très volontaire, très indépendante, qui voudrait bien faire ses propres choix, décider de sa vie, et elle a envie de devenir guérisseuse itinérante, donc voyager d'une cité à l'autre et se servir de sa magie pour améliorer le quotidien des gens. Malheureusement, sa sœur, la reine, meurt et voilà, elle est la dernière héritière par la suite de toutes sortes de circonstances dans sa famille. Et il faut donc que quelqu'un prenne le pouvoir, monte sur le trône dans sa cité. Et il y a une donc elle est poussée en quelque sorte par une sorte de destin, d'hérédité qui va la pousser à remplir ce rôle de reine. Qui n'est pas celui qu'elle avait choisi, et il va lui falloir donc plusieurs tomes pour se résigner à cette position.
Dont on ne sait pas, enfin, on sait qu'elle ne le veut pas, mais elle ne peut pas faire autrement. On se pose quand même des questions sur ses compétences en la matière, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui s'apprend et elle n'a pas le temps d'apprendre. Elle est quand même dans une situation, en tout cas au début du deuxième tome, on se dit oulala, mais comment elle va se sortir de cette ornière bien compliquée. Et puis vous verrez qu'il y a d'autres aspects derrière, en particulier dans sa vie privée, qui vont également poser quelques soucis. Mais c'est vrai que d'un seul coup, il y a un changement très violent pour Octaviane, qui est passé finalement de ce travail très altruiste à un poste de gouvernement où là, elle doit prendre des décisions qui sont pratiquement à l'opposé de ce qu'elle faisait auparavant.
C'est un petit peu l'aspect sadique de l'auteur. Une fois que le personnage est arrivé à un moment de sa vie où il était heureux et il pouvait faire ce qu'il avait envie de faire, et ben voilà, nous, on lui déclenche une nouvelle catastrophe pour le forcer à s'adapter. Et c'est comme ça qu'elle évolue. Et que... Alors, c'est vrai, elle n'a pas du tout les outils pour gouverner. On ne lui a jamais appris à être reine. Et elle est jeune et il y a des conseillers royaux, des ministres qui veulent lui donner des leçons. La magie de la terre ne répond pas forcément très bien. Elle ne sait pas vraiment la contrôler. Et donc, il va lui falloir mûrir petit à petit pour devenir une meilleure reine.
Ou pas. Vous verrez. Olive Enenstein, on l'a dit, il y a une opposition très franche dans Mère Morte entre l'humain et la nature, avec une nature qui veut vraiment se venger. Mais l'exorciste que vous nous présentez et que vous mettez en scène, il a une particularité, c'est qu'il a une amie. Et il a une amie qui est justement un de ces spectres d'animaux, qui est une delphine. Comment est venue l'idée justement de marier ces deux personnages ?
Je crois que c'est parti un peu d'une blague avec mon éditrice.
Vous avez mangé du chocolat blanc.
Non ! Ah non, mais boum ! C'était au salon de Montreuil il y a quelques années où elle me disait oui c'est drôle parce que t'as l'aspect le roi des fauves, les loups, le dieu oiseau, il y avait le côté aérien et elle me dit ah bah tiens pourquoi tu fais pas, enfin, je sais plus comment c'est sorti mais je fais ah oui j'ai une idée sur le maritime, elle me fait ah ouais avec un dauphin télépathe. Je trouvais ça super mignon. Et bon alors, Trélia, la delphine, n'est pas télépathe, mais c'est vrai qu'il y a une histoire d'amitié entre l'exorciste et la fantôme, et la delphine fantôme. Je trouvais que c'était bien d'apporter aussi quelque chose sur la relation de l'homme à l'animal d'une version positive, parce qu'effectivement, il y a la vengeance de la nature, il y a le tribunal animal qui dit « tu m'as fait du mal, maintenant je vais te faire du mal ». Et là, non, la delphine est un peu ambiguë, hein. Aussi.
Elle place surtout l'exorciste dans une situation très inconfortable.
Ouais.
Elle en fait un traître,
aussi,
potentiellement.
Oui.
Leur relation, ils doivent la garder secrète.
Oui, il la cache absolument parce qu'il ne veut pas que les autres sachent que lui, exorciste, est ami avec une fantôme. Et elle, du coup, est aussi traître à son espèce parce qu'elle chasse les fantômes autour de lui pour le protéger. Donc ils ont cette relation hors norme. Dans cette histoire, mais voilà, c'était aussi pour apporter une note de tendresse et d'espoir, parce que leur relation, elle est à la fois amusante, parce que la delphine, elle est assez drôle, tout en étant dramatique, parce qu'il va découvrir ce qui lui est arrivé et comment elle est morte. Elle est morte à cause des humains. Donc ça, quand il va apprendre ça, ça va le dévaster. Mais je trouve que leur relation apporte quand même une note de lumière dans cette grisaille de la mère morte.
C'est un récit initiatique puisque cet exorciste va évoluer dans sa position tout au long du roman et de ce qui va lui arriver. Et vous allez voir qu'il va lui en arriver, et pas uniquement à cause de la nature, hein, puisque l'être humain continue à sévir dans cet univers-là. C'est aussi un appel du pied pour nous à changer.
Je crois qu'il y a urgence. Hein. Bon, c'est, je pense qu'on est plus, comment dire, éveillé à ces questions-là. On en parle beaucoup maintenant. Je pense qu'on a vraiment conscience, surtout avec le plastique. En fait, c'est quelque chose dont on parle beaucoup du plastique dans les océans. Et donc ça, je mets ça en scène à un moment. Et moi, je parle aussi beaucoup de la surpêche dans Mer Morte et sur le fait qu'on vraiment on décime les espèces sous-marines. Il y a aussi au niveau du réchauffement climatique, de tout ce que ça peut enchaîner en catastrophe en chaîne. Donc oui, effectivement, c'est un appel du pied forcément quand on fait un récit comme ça engagé, écolo. Je pense que j'espère que ça peut apporter quelque chose au lecteur. Je vais dire quelque chose et puis ça m'échappe. Ça ne revient plus.
Ça reviendra peut-être tout à l'heure. Stéphane Plateau, je voulais qu'on élargisse un petit peu parce qu'on a parlé jusque-là du Sentier des Astres, mais le Sentier des Astres, c'est un univers qui est beaucoup plus large finalement que la série elle-même, puisqu'il y a des nouvelles qui se greffent dessus et qui nous emmènent là dans des décors foncièrement différents. Mais qui sont aussi où la nature joue aussi un rôle important. Dans Le Dévoreur, c'est la montagne, et dans Le Roi Cornu, c'est la mer.
Oui, donc dans Le Roi Cornu, là, on va à une époque antérieure, on plonge un peu dans le mythe d'un peuple,
c'est le cas de le dire.
Le peuple Firwan, qui a un jour traversé le détroit sur le dos de baleines géantes. Et donc, c'est une histoire qui nous permet notamment de partir chevaucher des narwals sur l'écume du détroit, dans une mer marquée par le volcanisme. Et là aussi de rencontrer des personnages mythiques à la fois fascinants, effrayants, tantôt bienveillants, tantôt terrifiants et cataclysmiques.
C'est une longue nouvelle.
C'est une nouvelle, oui.
Qui démarre, puisque le thème c'est aussi la fantaisie barbare, ça démarre par un duel entre frangins, presque à mort.
C'est un duel sous le tribunal des astres, c'est-à-dire que les Sentiers des Astres, l'univers porte ce nom, enfin en tout cas la saga principale porte ce nom, parce que les astres sont un petit peu les éléments structurants de l'univers. Donc il y a 8 astres majeurs qui sont considérés comme étant vraiment structurant le cosmos, mais structurant aussi l'intérieur de l'âme humaine, où ils jouent le rôle de moteurs fondamentaux de nos actes. Et chacun de ces astres, bon, il y a des astres fastes, il y a des astres néfastes, il y a des astres qui tendent vers l'évolution et des astres conservateurs. Mais chacun de ces astres peut, bon, même les astres néfastes peuvent être nécessaires à certains moments et jouer un rôle positif ou parfois on peut s'appuyer dessus. Par exemple, la colère peut dans certains cas être nécessaire. Et donc le duel sous le tribunal des astres, il y a 8 vasques qui sont allumées, chacune avec la rune d'un des astres majeurs, et les protagonistes du duel qui se fait dans le cercle dont ils ne peuvent pas sortir, doivent essayer de s'adosser aux astres dont ils ont le plus besoin à ce moment-là, en essayant de bien gérer, par exemple s'adosser ou être acculé, parce que l'autre peut essayer de vous acculer à un astre, à la colère, c'est un pari dangereux, mais qui peut être porteur aussi, puisqu'on peut chevaucher cette colère ou ne pas arriver à la maîtriser. Et comme on a affaire à un duel pour la royauté, évidemment le but c'est de terminer avec le soleil derrière soi, qui en plus va aveugler l'adversaire, parce que le soleil est l'astre de la royauté, ou d'arriver par exemple à prouver qu'on peut chevaucher la colère en s'adossant dessus mais en la maîtrisant, ce qui est un très bon auspice pour un roi. On a aussi un candidat qui aurait pu à un moment s'adosser à Kiarvati, le dévoreur, qui est un astre qui donne énormément de puissance mais qui refuse de le faire parce que ce serait considéré comme un signe très néfaste, parce que c'est un astre néfaste, c'est un astre qu'on appelle tyran, ce serait un signe néfaste pour son règne, et donc il refuse de le faire, par exemple par éthique ou pour ne pas gâcher son règne s'il gagne. Est-ce que du coup il va perdre ou pas? On verra.
En tout cas, c'est une nouvelle menée sur un rythme extrêmement vif, très rapide, avec beaucoup de rebondissements et un voyage. Vous verrez bien jusqu'où ça va vous emmener, hein, ce roi cornu, qui pour le coup, change vraiment radicalement de ce qu'on a pu lire dans les romans et les 3 tomes pour le moment qui sont sortis.
Oui, c'est-à-dire que c'est les temps mythologiques, donc c'est vraiment 1000 ans avant, quoi, ou à peu près. Dévoreur est un petit récit qui lui est un peu plus long d'ailleurs, qui lui est contemporain de mon cycle principal, mais là c'est vraiment un petit one shot, un petit huis clos dans des montagnes, et là ça explore l'inquiétante transformation d'un brave montagnard qui va changer de comportement d'homme jovial qu'il était sous l'influence du dévoreur, justement de cet astre néfaste qui brille trop fort au-dessus de sa maison et uniquement au-dessus de sa maison, qui va l'amener à devenir nettement moins agréable avec ses enfants et finalement le transformer en monstre. Et ce qui est, donc c'est vu par les yeux de sa voisine, de sa meilleure amie. L'idée qu'il y a derrière, c'est un peu si ton meilleur ami devient tout d'un coup un monstre, pas un gentil loup-garou, hein, un monstre en acte, hein, jusqu'où tu es prêt à aller pour essayer de le sauver de ce qui lui arrive, à partir de quel moment tu coupes les ponts et tu dis là t'es trop toxique et je peux plus rien faire pour toi. Et c'est quelque chose qui, bon là on parle d'un célèbre monstre de conte de fées, mais c'est quelque chose qui peut nous arriver à tous dans la vie réelle avec quelqu'un qui a une addiction qui devient trop lourde ou des problèmes psychiatriques importants ou d'autres choses. Donc c'est, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que le gars n'en peut rien et que l'homme jovial qu'il était reste là derrière le monstre, et qu'on a l'impression que ça pourrait nous arriver à tous. L'horreur, c'est un récit un peu d'horreur, un conte d'horreur fantastique, un peu presque lovecraftien, mais derrière il y a quelque part quelque chose d'humain qui est traité. C'est le mythe de Chronos, et le mythe de Chronos, c'est un mythe qui est très riche, puisque ça parle de la place qu'on est, du sacrifice qu'on est prêt à faire d'une partie de nos propres potentiels pour laisser place aux générations suivantes, ou qu'on n'est pas prêt à faire d'une partie de nos propres potentiels, de cette quête d'immortalité. Et en ça, ben, c'est un mythe qui est finalement très, très contemporain et très parlant aujourd'hui.
Peter Brett, on est pris par le temps, je vais vous demander une réponse courte. Il y a un décor qui est très important dans votre cycle. C'est le désert. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
There's a lot of sand. Is that short enough?
Thanks a lot. Oh, you can.
For me, the desert was important because the sand was able to preserve things for thousands of years, and that's where the hero of the story finds the lost magics that will allow humans to start fighting back. And so that's a setting that's very important to me, because there's a group of people already living there and they think that those ruins belong to them and their ancestors. And so this, you know, the hero of the story essentially goes in and robs a tomb that is sacred to these people. And in so doing, he starts two wars. He starts one war, humans against demons, and another war with this, you know, desert culture who he's sort of violated in a way. And so that allows me to explore both sides of that as the series progresses.
Oui, donc dans le désert, il y a beaucoup de sable. Ça suffit comme réponse. C'est court. Donc pour moi, le désert, c'était important parce que le sable permet de préserver des endroits. Par exemple, c'est là que le héros va retrouver la magie perdue qui permet de combattre les démons. Le problème, c'est qu'il y a déjà un peuple qui vit dans le désert et que pour ce peuple, les ruines dans lesquelles il va trouver les runes leur appartient. Donc quelque part, le héros leur vole quelque chose qui se trouvait dans des tombes sacrées. Et du coup, de ce fait, il déclenche deux guerres, une guerre entre les humains et les démons, et également une guerre entre lui et ce peuple. Et du coup, j'explore ces deux aspects au fur et à mesure de la série.
Hélène, parce qu'il faut quand même qu'on parle de ces hybrides avant de partir. On est dans la relation de l'humain à la nature. Or, avec ces hybrides, on est dans la violation de la nature par l'humain, puisque ce sont des créations humaines et magiques. Ce sont des personnes mi-hommes, mi-animaux, ça va plaire à Aurélie. voilà, qui sont-ils, ces hybrides?
Alors, c'est un peu une manière, si vous voulez, créer les hybrides, de montrer la face animale qui est cachée en l'homme. Hein. Donc, nous avons un personnage qui s'appelle Adalgis, qui est moitié lion, moitié homme. Donc, il a une crinière, il a des griffes. Il est donc méprisé pour cette part animale. Alors voilà, il a été créé parce que les hommes voulaient une armée avec des guerriers particulièrement féroces et aussi dociles qu'on pouvait domestiquer. Donc voilà, ça nous permet de réfléchir au rapport entre l'homme et l'animal qu'on trouve. Enfin, la littérature nous donne beaucoup d'indices là-dessus, les fables de La Fontaine, l'homme est un loup pour l'homme. Donc on considère qu'il est incapable de changer, d'évoluer. Et finalement, on s'aperçoit que si, il est capable d'avoir un sens du devoir, de respecter sa parole, de prendre soin des autres. Et donc finalement, le plus féroce, la plus féroce des créatures dans le livre, ce n'est pas l'hybride, c'est bien plutôt l'homme qui a un système d'esclavage.
Voilà, la nature humaine est sans doute la plus sauvage d'une certaine manière. Aurélie, juste un dernier mot de conclusion pour que le tour soit complet. il y a aussi, on parlait du désert des Tartares dans les influences, il y a aussi le vaisseau fantôme.
Le nain vulgaire, tu veux dire ?
Oui.
Dans la mythologie nordique ?
Oui, par exemple.
En tout cas, moi, c'est à ça que je pensais. Hein. Pour le bateau, c'est le Nafolgar. Je sais même pas comment on prononce, en fait. C'est terrible. Et c'est le bateau de la mythologie nordique où y a les voiles sont en peau et les ongles des ongles humains recouvrent la coque. Donc c'est un bateau fantastique, extraordinaire. Et j'ai choisi celui-là. C'est un bateau fantôme qui ressuscite à chaque marée fantôme et qui peut naviguer sur la mer morte.
Et donc on verra, puisque effectivement l'exorciste va partir sur ce bateau, et ce sera un des éléments de départ de son aventure et de sa rédemption, si on peut dire, ou en tout cas d'un projet fou qui est mené par ces pirates. Voilà, on est toujours pris par le temps dans ces tables rondes, c'est terrible. Mais j'espère qu'on vous aura donné envie de découvrir ces romans, ces cycles. N'hésitez pas à aller continuer les discussions sous la bulle du livre avec nos auteurs, à leur faire dédicacer leurs ouvrages. Et puis à échanger avec eux, et vous voyez que sur ces natures et sur cette fantaisie barbare, eh bien on a des styles, des décors, et puis des histoires différentes et très originales à la fois. Merci beaucoup, merci aux auteurs, et merci à Hélène pour la traduction.